Les podcasts du Collège de France, biologie.
Donc pour reprendre un tout petit peu les... Je vais un peu contextualiser, parce qu'on est, à mi-parcours, hein, on a fait 4 heures, il nous en reste 4. Fondamentalement, ce vers quoi on avance, c'est que cette histoire de morphogène est plus difficile qu'on ne le pensait au départ, en tout cas moi je ne le pensais au départ. Et je ne suis pas entièrement convaincu au stade où j'en suis qu'il y ait quelque chose qui s'appelle de la diffusion. Donc, je ne suis pas décidé là-dessus. Hein. J'essaie de comprendre un tout petit peu en m'orientant à travers les articles en même temps que vous, avec un petit peu d'avance sur vous, mais pas tellement parce que je ne suis pas un spécialiste de la drosophile en particulier. Aujourd'hui, on va faire un peu de poulet aussi. On va augmenter la variété du zoo. Mais il reste que ce à quoi j'essaie de vous guider, ce vers quoi j'essaie de vous guider, c'est que ces histoires de... Il y a des gradients, bien entendu, mais que ces gradients ne naissent peut-être pas par des phénomènes de type diffusion. Et que tous les modèles qui ont été faits, qui sont fondés essentiellement sur la diffusion des molécules, sont peut-être des modèles... sont des modèles, voilà. Mais un modèle ne correspond pas forcément à la réalité de la chose. Alors, comme chaque fois maintenant, puisque c'est la troisième fois, donc c'est des habitudes, je vais vous contextualiser un tout petit peu ce qui a été fait depuis deux cours, et puis je vais démarrer sur les choses plus récentes, pour que ceux qui seraient venus aujourd'hui, pour la première fois, ne soient pas totalement perdus. Il y en a qui sont ici pour la première fois. Voilà. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'un champ morphogénétique, ben, il y a une source, hein, et puis il y a un morphogène qui diffuse. De façon... ça ne diffuse jamais droit, de toute façon, même si ça diffuse. Hein. Il faut bien imaginer que c'est un truc assez stochastique. Et puis ici, il y a ce qu'on appelle un puits ou un sink, si on est anglo-saxon. Et que ça nous... crée ce qu'on appelle un vecteur de polarité dans un champ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une molécule qui est distribuée de façon asymétrique dans un champ, j'ai un vecteur de polarité, j'ai un vecteur scalaire qui m'indique pour chaque élément, quel qu'il soit, ça peut être une molécule, ça peut être une cellule, hein, qui lui indique, c'est un espace à une dimension ici, qui lui indique où il est. Quoi. S'il est capable de lire cette concentration, il sait à peu près où il se place. Et donc, au départ, il est important que, si on veut construire un organisme de façon correcte, on ait des gradients de ce type. Donc, la question, c'est comment j'établis un gradient. Alors, c'est vrai que la diffusion, c'est pratique, parce que si j'ai une source qui me le synthétise et j'ai un puits qui me le dégrade, je vais établir un gradient. En fait, toute la question qui a été posée depuis maintenant 4 heures, c'est la question de est-ce qu'il y a une diffusion ? Donc on est parti de bicoïde parce que c'était le premier morphogène, mais vous avez déjà vu qu'avec bicoïde, on a eu des problèmes avec la diffusion. C'est-à-dire que pour faire une diffusion depuis l'avant à l'arrière de la mouche, il faudrait des constantes de diffusion de 20 micromètres carrés par seconde, alors que celles qui sont mesurées par photobleaching avec des molécules fluorescentes démontre que les constantes de diffusion sont de l'ordre de 0,2 à 0,3, c'est-à-dire qu'on est à deux ordres de grandeur en dessous de ce qu'il faudrait. Donc ça veut dire qu'il y a du transport. Donc le transport, ça peut être quoi ? Le transport, ben, ça peut être un moteur, hein, c'est-à-dire que je peux avoir du cytosquelette, et puis je peux avoir des molécules qui transportent, et puis j'accroche mon cargo là, et puis hop, je suis entraîné avec un moteur. Donc ça peut être un transport de ce type. Ça peut être des poils. Il y a une grande mode du poil en ce moment. Donc, à la surface des cellules, j'ai un petit poil comme ça qui bat dans un sens et qui m'emmène les morphogènes par un flux qui est un flux de liquide extracellulaire. Donc, ça peut être un poil, par exemple, qui peut servir. Mais il y a aussi du moteur, parce qu'il faut que le poil batte dans le bon sens. Hein. Ça peut être que ça ne diffuse pas. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, ça c'est le modèle que j'aime bien parce que c'est le mien, pour mes protéines, donc bon, c'est normal hein, que je préfère à celui des autres, que la molécule passe juste d'une cellule et qu'elle active sa propre transcription et que ça passe dans l'autre cellule et qu'à chaque fois ce soit moins efficace, donc ça forme un gradient, puis que la molécule ou bien que les cibles dont elles régulent la transcription ou la traduction, viennent à la surface et donc forment un gradient à la surface. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre modèle? On a le sitonème, hein, vous allez voir aujourd'hui si on a le temps d'aller jusque-là. Donc, je suis ici, hein, et j'envoie un long fil d'actine, comme ça. Pas très joli, mais bon, c'est une membrane, quoi. C'est la membrane. J'arrive pas à dessiner ce truc-là, c'est pas grave. Et puis, ici, j'ai un morphogène. Il va se fixer dessus, et hop, je vais récupérer le morphogène pour le ramener à la maison. Donc, je vais aller le chercher très loin, comme un tentacule de pieuvre. Donc, tout ça sont des modèles qui ont. C'est pas uniquement des modèles. C'est clair qu'il y a plein d'éléments expérimentaux qui suggèrent que ces choses-là existent. Fondamentalement, je crois qu'il serait malhonnête de dire qu'on sait exactement ce qu'il en est. Donc, ce que je vais maintenant faire, c'est reprendre rapidement certains éléments des deux dernières leçons, là, pendant peut-être un quart d'heure. Donc, ceux qui savent, ils pensent à autre chose. Et puis, je vais après revenir sur les choses nouvelles que j'ai à vous raconter. Mais au fond, le cadre, c'est celui-là. C'est-à-dire, comment faire un gradient. Par exemple, je n'ai pas parlé des phénomènes de... Je pourrais aussi avoir quelque chose de disposé entièrement uniformément, et puis avoir une dégradation préférentielle le long de l'axe antéro-postérieur. Je peux dégrader plus à la fin qu'au début. Je peux aussi avoir des stabilités différentes. Tous ces éléments, toutes ces variables interviennent évidemment dans la façon dont je peux créer fondamentalement une information de type polaire ou polarisée le long de l'axe X, Y de mon organisme. Évidemment, tout ça, ça se passe quand même en deux dimensions au minimum, et parfois même, par exemple, quand vous êtes dans un bourgeon mésenchymateux pour faire la pâte du poulet, dans trois dimensions, parce que c'est pas uniquement un épithélium. Bien, même si c'est très souvent, dans les cas que je vous ai présentés, des épithéliums, c'est-à-dire qu'on peut se contenter de travailler sur un organisme plat, à deux axes. Hein. Donc, je reviens donc sur cette affaire. C'est probablement les dernières fois où je vais vous parler de mouche. Je veux pas le jurer, parce que entre deux cours, il m'arrive de retomber dans la mouche et c'est quand même un organisme fascinant, quoi. Donc là, c'est toujours le disque imaginal de l'aile. Et de nouveau, j'attire votre attention, ce que je vais peut-être y revenir tout à l'heure si j'ai le temps, sur le fait que c'est là qu'on a les cellules qui vont donner l'aile et qu'elles sont polarisées avec un axe, avec un domaine apical et un domaine basolatéral qui est ici. Et que là, on a une lumière qui n'est pas accessible aux réactifs, que ce soit des réactifs pour biotiniler ou des réactifs pour faire des anticorps, à moins, évidemment, de fixer le tissu. Donc, si je ne fixe pas le tissu, je ne sais jamais ce qui se passe là-dedans. Donc, ça, c'est un point sur lequel je demande de retenir. Parce que l'autre chose qui est importante, c'est qu'on pense que ces morphogènes, enfin, beaucoup de chercheurs dans la littérature que j'ai lue récemment, pense que les morphogènes, que ce soit DPP, c'est une molécule de la famille du TGF, au fond, c'est pas important, ça s'appelle juste DPP, il s'occupe de l'axe antéro-postérieur, ou que ce soit Wingless, qui s'occupe de l'axe dorsal ventral, ici en vert. Il est aussi exprimé autour, mais ça n'a pas d'intérêt par rapport au point qui nous concerne aujourd'hui, en ce moment. Eh bien, beaucoup de gens pensent qu'ils sont sécrétés dans la lumière, entre les cellules péripodiales et les cellules de l'épithélium au sens strict, et qu'ensuite, il a accès dans le domaine basolatéral par un phénomène de retransport et puis de resécrétion. Mais la plupart des chercheurs, mais pas tous, pensent que c'est à ce niveau-là que s'établit le gradient. Mais supposer qu'ils s'établissent à ce niveau-là, ce serait complètement différent, surtout s'il n'y a pas de gradient. Par exemple, supposer que les sitonèmes, c'est ce que pense Kornberg, sitonèmes sont entièrement créés dans le domaine apical, alors les sitonèmes iraient rechercher les molécules dans cet espace extrêmement fin, en fait, intercellulaire entre les cellules péripodiales et les cellules du disque, et en fait, tout ce qui se passerait là serait totalement irrelevant, d'une certaine façon. Donc, c'est une vue un tout petit peu... drastique de la chose, mais puisque un chercheur l'a proposé, ce problème de la sécrétion apicale et éventuellement du retransport dans le domaine basolatéral n'est pas un problème qu'on peut laisser entièrement faire comme s'il n'existait pas. Hein. Donc là, je vous le rappelle, c'est toujours pour ceux qui n'étaient pas là. Donc effectivement, on pense, ça veut dire d'une certaine façon la communauté, il y a sûrement des gens qui ne pensent pas ça, que la sécrétion se fait dans le domaine apical, où il ne se passe pas grand-chose, qu'il faut que les morphogènes soient récupérés pour être adressés dans le domaine basolatéral, où ils vont ensuite diffuser, et diffuser de différentes façons. Ils vont soit diffuser dans l'espace, comme ça, en se baladant entre les cellules, ce qui demande quelque chose de l'ordre du brownien, parce que sinon, ils n'arriveraient jamais, rappelez-vous, le premier cours, ils n'arriveraient jamais à avancer à la vitesse à laquelle ils peuvent avancer. Ils seraient toujours bloqués par un obstacle. Ou bien par des phénomènes plus actifs, du genre, je suis capturé, par exemple, par la cellule, et je suis recraché par la suivante, et recapturé, et recraché. C'est le modèle sur lequel je vais revenir dans un instant, des exosomes ou des argosomes. C'est de la transcytose, quel que soit le mécanisme de transcytose qui puisse être invoqué. Et évidemment, dans ce transport, vous pouvez avoir des éléments de transport actifs, hein, avec des moteurs, bien sûr. Et au cours du transport, il peut se passer des choses épouvantables, du genre être envoyé vers les lysosomes, où je suis dégradé, ce qui me permet évidemment d'établir éventuellement des gradients selon que la dégradation est plus ou moins forte. Donc, pendant très longtemps, on a travaillé sur des tissus, on essayait de suivre les morphogènes en utilisant des anticorps, c'est-à-dire en fixant les molécules. Mais vous avez vu à quel genre d'artefacts ces procédés de fixation peuvent mener. Dans le papier en particulier dont je vous ai parlé longuement, celui d'Ostatny, elle attribue les résultats de Vichaus-Libler à un artefact de fixation et d'immunostochimie, tout bêtement. Donc, il est important de pouvoir avoir affaire à des molécules qu'on va suivre de façon directe, des molécules fluorescentes. Et de nouveau, je parle pour ceux qui prennent le cours en route. C'est comme ça qu'il y a une grande littérature, de plus en plus profuse, où on prend le facteur que l'on étudie et on le lie à une protéine fluorescente. On fait en sorte de vérifier, bien entendu, que cette molécule chimère qui est attachée à une molécule fluorescente, donc qu'on peut suivre, qu'on peut voir sans fixer le tissu, a les mêmes propriétés biologiques que la protéine d'origine. Par exemple, ici, voilà ici une aile normale, voici une aile dans laquelle on a retiré des cas pataplégiques, des PP. Voici une aile dans laquelle on a retiré des cas pataplégiques, on l'a remplacée par un des cas pataplégiques avec GFP. Vous voyez qu'on restitue, à quelques variations près, on restitue la morphologie globale de l'aile. Donc on peut dire que le morphogène, même modifié par l'addition d'une molécule fluorescente, garde ses propriétés physiologiques normales. Alors, de nouveau, un papier dont je vous ai parlé, je vais vite, c'est pour ça, hein, parce que c'est du rappel. Dans ce cas ici, vous voyez que c'est un papier de Steve Cohen qui, lui, pense que les morphogènes sont entièrement extracellulaires, c'est-à-dire que le transport est un transport qui n'implique pas un passage à travers la cellule, qui ne nécessite pas de l'endocytose. Hein. Et vous voyez ici DPP qui est exprimé donc à la frontière de l'axe antéro-postérieur de l'aile. Hein. Et ce que vous pouvez voir, c'est dans une aile non fixée, eh bien, le gradient. Mais ce sur quoi j'avais attiré votre attention l'autre jour, c'est que fondamentalement, ces gradients sont extrêmement shallow, comme on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas un gradient, rappelez-vous, le drapeau français de Volpert. On part de relativement bas, à part là, ça ne fait pas partie du gradient, parce que là, c'est les cellules qui le synthétisent. Hein. Et ça, c'est ce qui est libéré et qui donc diffuse depuis ici jusque-là. Et vous voyez que ce sont des gradients qui sont extrêmement fins. C'est-à-dire que la différence de concentration entre la cellule N et la cellule N plus 1 est extrêmement faible. Si c'est comme ça, ça veut dire que les deux cellules, si elles ont des devenirs différents, sont capables de lire des différences de concentration extraordinairement fines. Il y a un système de lecture très fin, si c'est vraiment comme ça. Et là, c'est ce qui se passe évidemment quand on fixe. Quand on fixe, on voit que c'est rapport signature-bruit beaucoup plus mauvais. Hein. Et là, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Avec, c'est pas parce que le morphogène extracellulaire est suffisant qu'il n'est pas non plus capturé et dégradé. Et vous voyez ici ce qui se passe à l'intérieur de la cellule le long de l'axe antéro-postérieur. Antéro-postérieur. Avec, ça, c'est en fausse couleur, c'est la même chose. Hein, c'est les deux. C'est en... Et vous voyez que vous avez un gradient, mais que ce gradient n'est jamais quelque chose d'extrêmement violent. On est loin de ce qu'on imagine normalement en termes de gradient. Là, c'était une expérience qui a été faite par aussi l'équipe de Cohen, à Heidelberg, où il essayait de voir ce qui était extracellulaire. Et pour faire ça, c'est relativement simple, c'est-à-dire que vous prenez vos disques imaginaux et puis vous les trempez dans une protéine, dans quelque chose qui dégrade les protéines, une protéase, et vous regardez si ça disparaît sans avoir fixé les tissus. Donc, vous pouvez voir ici que votre protéine DPP-GFP fluorescente. Quand vous traitez avec une protéine nase, un truc qui dégrade les protéines, vous la perdez, mais alors que vous ne perdez pas les protéines intracellulaires. Ça veut dire que votre molécule est totalement extérieure. Mais là, rappelez-vous, on ne voit que ce qui est dans le domaine basolatéral, parce que comme je n'ai pas fixé mes cellules pour faire de trous, je ne vois pas ce qui est dans le petit territoire qui est entre mes cellules péripodiales et mon épithélium. Donc ça, c'est vrai pour toutes les molécules qui ne sont pas dans le domaine apical, c'est vrai pour toutes les molécules qui sont dans le domaine basolatéral. Il reste que ça veut dire quand même que si on oublie ce domaine apical, la plupart de mon morphogène est extracellulaire. Dans les expériences de Cohen. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord sur. C'est ça qui est amusant avec cette histoire, c'est qu'au fond, il n'y a pas deux laboratoires qui sont d'accord, donc ça laisse le temps de réfléchir. Et là, évidemment, en fonction du gradient, voilà du gradient de morphogène, de DPP. Avec une pente, vous voyez, qui est de 1,28, hein, en tout cas dans le domaine antérieur, qui est le domaine qui nous intéresse le plus ici, eh bien, vous avez des réponses. Hein, la réponse est en rouge, c'est la réponse d'une activation de MAD, en fait. Et, en mauve, c'est la réponse de MAD. Et vous voyez que ce n'est pas l'endroit où j'ai le plus de molécules que j'ai la meilleure réponse, parce qu'à cet endroit-là, c'est là où j'ai le moins de récepteurs, en rouge, qui s'appellent, comme vous savez maintenant tous, j'imagine, « thick veins ». Veines épaisses. Donc, par contre, comme je vous l'ai dit l'autre jour, le groupe de González-Gaétan, lui, pense que le transport se fait par endocytose. Hein, c'est-à-dire que. Pourquoi ? Parce qu'il a aussi utilisé. Une molécule de fusion entre DPP et une protéine fluorescente, qu'on appelle donc la GFP de nouveau, et ils ont vu que s'ils bloquaient l'endocytose, en particulier avec des mutants qu'on appelle un mutant Schiebeyer, dans lequel cette protéine est inactivée, qui est une protéine qui permet la formation des vésicules à clatrine, c'est-à-dire des vésicules d'endocytose, alors on ne voit plus d'avancée de mon morphogène. Bon, c'est un bon argument. C'est-à-dire, si je dis quand j'ai plus d'endocytose, j'ai plus d'avancée de mon morphogène, peut-être que l'endocytose est nécessaire à l'avancée du morphogène. Mais je pouvais dire aussi, si je n'ai plus d'endocytose, tous mes récepteurs qui sont à la surface, ils ne sont plus capturés, donc j'augmente le nombre de récepteurs à la surface, qui sont autant de gants de baseball qui attrapent le morphogène et qui empêchent le morphogène de diffuser. Donc, au fond, cette expérience, ça serait aussi compatible avec un phénomène d'endocytose pour le transport. Qu'avec un transport diffusible à la surface, au site, évidemment, où sont exprimés les récepteurs, basolatéral en l'occurrence. Donc, voilà les expériences, je vous les rappelle, les expériences du groupe de González-Gaétan, qui est à Dresden, lui, en Allemagne. Donc, de nouveau, le niveau où est exprimé... J'avais un sac tout à l'heure... Je l'ai mis, oui. Là. Le niveau, où vous voyez, où est exprimé DPP. Et puis, sur les bords, comme vous pouvez voir, vous avez des petits points. Hein, des petits points qui correspondent à une zone de diffusion du morphogène. Et quand on regarde un petit peu plus près où est le morphogène, eh bien, effectivement, il est dans les cellules. Ça, c'est des membranes qui sont marquées en fait par du dextran, du rouge dextran, qui diffuse entre les cellules aussi. Bon, je prends mes documents parce que si je m'en mêle les pinceaux, il faut que j'ai accès à l'information. Voilà. Vous avez vu, ça m'arrive souvent. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Parce qu'en fait, c'est une littérature que je découvre un petit peu avec vous. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a donc l'endocytose du morphogène. Et tous ces petits points sont, pour cette équipe, des molécules qui ont été capturées par les cellules, qui ne sont pas évidemment les cellules qui produisent. Les cellules qui produisent, elles sont ici. Hein. Là, c'est un mutant dans lequel on a empêché... c'est le DPP, c'est DPP LACZ. En fait, on voit juste la zone de synthèse. C'est un gène bêta-gal qui est dans le locus DPP, ce qui fait que le gène bêta-gal ne diffuse pas. On voit juste les cellules qui synthétisent. Donc, les cellules qui synthétisent, elles sont là. Mais tout ce qui est en dehors des cellules qui synthétisent, c'est du transport. Hein. Et c'est du transport ici qui implique, selon cette équipe, de l'endocytose, et c'est d'ailleurs assez probable, hein, parce que les expériences sont faites de façon extrêmement propre. Et vous voyez ici toutes les cellules, chaque petit truc de médicament, la petite capsule, c'est une cellule, et on peut mesurer, exactement comme l'avait fait Steve Cohen, on peut mesurer la concentration en fluorescence en stackant toutes les coupes de confocales, on peut voir qu'on a un gradient global qui s'installe depuis ce qui produit jusqu'à un rang d'une cinquantaine de cellules ici dans mon embryon. Et là, c'est une coupe apicale basolatérale. Vous voyez que ce n'est pas entièrement distribué de façon homogène entre le domaine apical et le domaine basolatéral. Ça, c'est aussi un point qui n'est pas sans intérêt. Donc, toujours ce papier de Gaëtan Picon, donc de González Gaëtan, où là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bleaché, c'est-à-dire que là, c'est un agrandissement, hein, simplement, ce sont trois agrandissements. On voit quand même que ça va relativement loin, pas très loin, à vrai dire. Et ça, c'est un point que je trouve assez intéressant, ça passe loin. Mais ça se reconstitue. Si vous faites un photo bleach, si vous regardez une heure, deux heures, ou 4 heures plus tard, vous voyez que vous restituez votre transport, et en même temps que vous restituez votre transport, vous activez le gène cible autour de la zone d'expression. Ici, vous avez, je crois, c'est l'expression de PMAD, hein, qui est évidemment le marqueur cible, c'est-à-dire un gène qui est phosphorylé, une protéine qui est phosphorylée après la fixation de DPP sur son récepteur thick veins. On va bientôt arriver là où on en était la semaine dernière. Donc, toujours cet article, ma zone d'expression. Et là, je regarde la colocalisation avec Thigden, parce que l'idée, c'est que la capture du morphogène nécessite la fixation sur son récepteur. C'est-à-dire que le morphogène se fixe sur son récepteur, et ensuite j'ai une endocytose. Donc l'endocytose fait que je dois avoir, quand je suis dans ma cellule, après avoir été capturé par endocytose, je dois avoir dans la même vésicule, ou sur la même vésicule, le morphogène et son récepteur. Et chaque fois que vous voyez du jaune, c'est qu'il y a du rouge avec du vert, et le vert c'est DPP, GFP, et le rouge c'est ici, c'est thick-vein, donc le récepteur. Ou bien un dextran, mais ici c'est le récepteur, pour celle-là en tout cas. C'est la colocalisation. Donc, c'est pas mal. Et là, c'est dans un mutant, hein, dans lequel on a empêché l'endocytose, c'est-à-dire un mutant de la dynamine, cette molécule qui permet de faire des vésicules côté. Et vous voyez que quand je bloque la formation des vésicules côté, eh bien, je bloque la capture de mon morphogène et je n'ai plus de transport du morphogène. Toujours ici, je suis dans mon domaine basolatéral.
Est-ce qu'ils ont fait un knockout du récepteur ?
Non, ils n'ont pas fait un... Oui, il y a eu des manips avec un knockout du récepteur. effectivement, tu as le même résultat quand tu as un fixed end KO et quand tu as un dynamic KO. Donc là, ils ont regardé, c'est une autre façon un petit peu plus subtile de faire. La mouche, c'est pas mal pour ça, parce qu'on peut faire des clones, c'est-à-dire qu'on peut avoir un épithélium, hein, et puis de ce type. Donc j'ai mon aile, hein, mon disque hein, en l'occurrence. Ici, j'ai mon domaine, ma zone donc, qui est mon bord antéro-postérieur, hein, où je vais avoir la synthèse de mon morphogène, soit hedgehog, soit DPP. Et puis, je peux m'amuser à introduire un clone de cellules dans lequel il va manquer quelque chose. Hein. Et je peux voir comment mon morphogène va se comporter quand il arrive au niveau de ce clone de cellules. C'est-à-dire que si je modifie ce clone de cellules de façon intelligente, je peux essayer de voir ce qui se passe. Et là, ce que vous avez... il n'y a pas à y arriver. Hein. À la fin du cours, je pense que j'y arriverai. Ce sera pour l'année prochaine, sauf si j'ai oublié entre-temps. Donc, ce qui paraît. Donc là, ce que vous avez, c'est justement pour répondre à la question de David, c'est un clone dans lequel on a muté FIGVEN. C'est-à-dire, c'est un clone où il n'y a pas le récepteur. Hein. Donc, c'est mieux que de retirer le récepteur partout parce que ça permet d'avoir une aile relativement normale et de regarder dans un territoire où j'ai supprimé mon récepteur ce qui se passe. Et là, j'ai aussi d'autres clones. Là, c'est donc un petit clone de cellules. Il y a une soixantaine de cellules qui n'expriment pas le récepteur. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le morphogène diffuse. Hein, et quand il arrive ici, eh bien, il ne passe pas, on le voit un petit peu à la surface, là, dans les premières cellules, et puis il ne rentre plus, on ne le voit plus à l'intérieur. Et là, c'est le même genre de manip qui a été faite avec un mutant dynamine, c'est-à-dire ça, c'est des clones qui ne sont plus capables de faire de l'endocytose du tout. Et alors, ce qu'ils essayent de nous dire ici, c'est que non seulement voilà ma molécule qui diffuse, j'arrive dans la zone où je ne fais plus d'endocytose, que je n'ai plus les molécules qui me permettent de capturer des vésicules d'endocytose. Hein. Donc, mais j'ai quand même un tout petit peu, je ne sais pas si vous voyez, j'ai quand même un tout petit peu de marquage. Hein. Donc, j'arrive quand même un tout petit peu à diffuser. Mais de l'autre côté, surtout, de l'autre côté, j'ai ce qu'ils appellent une zone d'ombre. C'est-à-dire que c'est encore plus noir derrière qu'à ce niveau-là. Et ce qui veut dire par là, c'est que, au fond, je ne suis pas capable de traverser ce domaine parce que derrière, là, vraiment, c'est très très noir. Donc, au fur et à mesure, je perds la capacité de traverser. Donc, je fais une ombre négative de mon morphogène derrière. Donc, en fait, si je fais un territoire qui est comme une espèce d'écran à travers lequel je ne peux pas passer parce que je bloque l'endocytose, je ne peux pas aller de l'autre côté. Ce qui va dans leur théorie du fait qu'il faut de l'endocytose pour atteindre des domaines éloignés de mon aile. Donc, et pour asseoir et assommer le truc, c'est-à-dire vraiment, ils ont utilisé deux autres types de mutants, qui sont des mutants de type RAB. Alors RAB, c'est des petites molécules qui lient le GTP, des molécules RAB, qui sont impliqués dans différentes étapes de voyage des organelles, des vésicules. Donc RAB5, c'est quelque chose qui permet de faire des endosomes précoces. C'est-à-dire que... et RAB7, c'est quelque chose qui m'emmène vers les lysosomes, qui me dégrade. Donc si je fais une perte de fonction RAB5, je ne vais plus d'endosomes. Si je fais un gain de fonction RAB5, je vais plus d'endosomes. Et si je fais un gain de fonction RAB7, je dégrade mes molécules. Hein. Donc en gros, quoi. Pas en gros, d'ailleurs, c'est vrai. Et là, donc, vous avez un animal normal. Vous voyez le gradient de DPP par, en fait, sa cible, hein, sale. Donc, vous voyez que ça, c'est cette taille-là du côté... je crois que je ne sais plus de quel côté, c'est-à-dire si antérieur ou postérieur. C'est pas très grave. Non, c'est du côté... Ça, c'est le côté postérieur. Ça, c'est le côté postérieur parce que vous avez MGREL qui est exprimé. Ça, c'est le côté antérieur. Donc, vous voyez que la zone d'extension de l'activité de mon morphogène maintenant, parce que je suis la cible du morphogène, c'est celle-là. Mais si je fais une perte de fonction de RAB5, là ici j'ai une perte de fonction de RAB5, eh bien dans ce domaine, eh bien je réduis la diffusion de mon morphogène, c'est-à-dire que si je bloque ce qui permet de faire des endosomes précoces, l'endocytose, je perds ça. Mais si je fais un gain de fonction de RAB5, eh bien j'augmente la taille de diffusion de mon morphogène, telle que je peux la suivre par le gène cible, et je peux aussi m'amuser à faire des mutants négatifs, dominants négatifs de RAB7, des gains de fonction de RAB7, c'est-à-dire que je dégrade beaucoup plus, et à ce moment-là, de nouveau, si je dégrade plus, je réduis la taille de ma diffusion. Donc ça colle entièrement avec le modèle que la diffusion du morphogène nécessite le passage par des vésicules d'endocytose, mais ce n'est pas incompatible avec un modèle qui dirait que la signalisation nécessite l'endocytose. C'est-à-dire que ce que je fais, ce n'est pas faciliter le transport, mais faciliter la signalisation. Et c'est ce que d'autres proposent, c'est-à-dire en particulier cette équipe. J'en étais resté donc là l'autre jour quand on s'est séparés. C'est que cette équipe propose une autre interprétation. Elle dit non, je n'ai pas besoin de la diffusion. Je n'ai pas besoin de l'endocytose pour faire de la diffusion. D'ailleurs, je fais de la diffusion sans endocytose. Par contre, j'ai besoin de l'endocytose pour signaler. Parce que, et ça, c'est une idée qui n'est pas récente, mais en fait, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, et j'y reviendrai probablement dans le cours. C'est que nous avons tous l'idée que pour signaler, il faut que l'agoniste se fixe à la surface sur un récepteur et transduit le signal depuis la membrane, hein, c'est ce qu'on pense, mais il y a énormément de travaux qui suggèrent que le complexe agoniste-récepteur est capturé par la cellule dans une vésicule d'endocytose, et que la vésicule d'endocytose se promène dans la cellule, et au fur et à mesure qu'elle se promène, elle signale, c'est-à-dire qu'elle fait son activité de façon intracellulaire. Ce qui pourrait y avoir rien du tout à la surface, mais tout pourrait avoir été capturé par les cellules, et puis faire l'activité en intracellulaire. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a un autre élément qui se joue, c'est-à-dire que la durée de vie de mon endosome devient un élément extrêmement important pour savoir combien de temps je vais avoir, surtout qu'avec l'intensité de mon signal. C'est-à-dire que ce n'est plus uniquement une question de concentration à ce moment-là, c'est aussi une question de durée. De durée d'exposition. Et si vous avez lu les travaux que je ne vais pas vous montrer parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais ça peut vous aider à lire ce genre de travail, le travail de John Gurdon sur l'activité des BMP dans le développement de l'embryon de crapaud, du xénope, vous verrez que son modèle est essentiellement un modèle qui est sur la durée d'exposition. C'est-à-dire que finalement, on pourrait ne pas avoir de gradient du tout, mais avoir une molécule totalement plate. Hein, mais si, en fonction de la position, elle est dégradée ou elle reste plus longtemps dans l'endosome, et que l'endosome signale, par exemple, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir un gradient non pas de morphogène, mais un gradient de l'activité du morphogène, ce qui n'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire que l'activité peut être gradée, alors que la concentration du morphogène, elle, peut être constante. Si j'ai un mécanisme qui me permet de bloquer la dégradation ou de maintenir mon endosome signalisant plus longtemps, c'est-à-dire de ne pas l'envoyer, par exemple, vers les lysosomes. Si je bloque RAP7, j'ai un système qui fait que je bloque RAP7, je ne fais pas le passage endosome-lysosome et donc je ne dégrade plus. Et si mon endosome a des capacités de signalisation, alors je vais activer la signalisation plus longtemps. Ben, il y a des molécules, rien n'est connu vraiment, mais beaucoup de choses sont connues quand même. Par exemple, pour le cas prenons Hedgehog, par exemple, qui est internalisé, je crois que c'est Hedgehog, je ne sais pas si c'est Hedgehog, la molécule Sarah, non, c'est avec le GF, je crois, le GF, je sais plus. Enfin, il y a un de ces morphogènes où il y a une molécule qui s'appelle Sarah, qui permet de fixer un SMAD à la surface de SMAD à la surface de, donc c'est un DPP effectivement, à la surface de l'endosome, et il y a un mécanisme qui fait que ça peut se décrocher ou pas, hein, qui est d'ailleurs dépendant des inositol phosphates, et qui va permettre d'envoyer le facteur de transcription avec son cofacteur dans le noyau ou pas. Donc ça c'est aussi une question importante, c'est-à-dire que quand si j'ai un phénomène nucléaire, je peux avoir des tas de molécules qui sont accrochées à la membrane, soit au niveau de l'endosome, soit au niveau de la surface, et qui doivent aller au noyau pour que ça marche. Ben, c'est le cas de Notch Delta, par exemple, hein, dans le fameux système Notch Delta, je sais pas, entre vous qui vont au cours de Spiro Sartavanis, Mais la fixation de delta sur notch entraîne un clivage du domaine intracellulaire de notch qui, lui, va dans le noyau et est un cofacteur de l'activation transcriptionnelle des gènes, je ne sais plus lesquels, Unserved split. Donc, oui, il y a aussi cet élément de régulation, mais ça fait partie du package régulation, c'est-à-dire que derrière la présence en gradient ou pas d'un morphogène, il y a énormément de choses qui se passent. La réponse n'est pas une réponse simplement qui suit linéairement, c'est ça que je veux dire, qui suit linéairement la concentration de morphogènes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce que dit cet article, qui est un article extraordinairement intéressant d'ailleurs, je veux dire, j'ai lu avec beaucoup de plaisir, c'est que oui, il faut de l'endocytose, mais ça n'a rien à voir avec le transport. C'est-à-dire que je peux avoir du transport sans endocytose. Par contre, j'ai besoin d'endocytose pour faire de la signalisation. Donc, alors maintenant, évidemment, vous êtes tellement habitué à ça qu'on dirait que vous avez travaillé sur les mouches toute votre vie. Vous voyez ça tout de suite, ce qui se passe. Donc, j'ai mon GFP, mon GFP-DPP. Là, c'est l'extracellulaire. Hein. Donc, je ne vois pas la molécule synthétisée en intracellulaire, hein, dans les cellules qui synthétisent au bord. Donc là, j'ai juste l'extracellulaire. Vous voyez que de nouveau, mon gradient est extrêmement peu gradient, hein, pour être honnête. Là, j'ai la réponse avec PMAT. Je vois que c'est là que j'en ai le moins, hein, parce que j'ai assez peu de récepteurs FIC-VEN, donc j'ai peu de réponses, même si c'est au niveau où j'ai plus de morphogènes. Et ma réponse est comme ça. Et là, c'est ce genre de truc, on fusionne toutes les couleurs, on n'y comprend plus rien. Mais bon, c'est devenu nécessaire. Enfin, je n'ai pas dit de ne pas comprendre, de fusionner les couleurs. Donc, concentrez-vous plutôt sur les deux premières colonnes. Quand ça va être intéressant, parce que l'axe Z, c'est là où sont exprimés les mini-clones. Donc, de nouveau, ici, c'est un système où on a mis des mini-clones. Hein, et là, c'est un mini-clone dans lequel on a supprimé... alors là, c'est Schibayer, c'est-à-dire c'est la dynamine. Et ça, c'est la dynamine à des températures non permissives, c'est-à-dire j'ai activé ou inactivé mon gène. Donc, exprimé sous un contrôle du S-GAL4 thermosensible. Donc, ce que vous voyez dans cette manip-là, hein, si je regarde le GFP-DPP extracellulaire, c'est que quand j'ai un clone dans lequel je n'ai pas d'internalisation, hein, comme celui-là, parce que j'ai bloqué l'internalisation par la mutation, eh bien, j'ai l'impression, qui est assez forte d'ailleurs, que j'ai une augmentation, hein, de la présence de ma molécule extracellulaire. Vous voyez, c'est plus bleu, je dirais, dans ce petit machin-là, qui correspond à mon clone, là où je n'ai pas de rouge, qu'autour. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu moins bleu ici qu'ici. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous le voyez, je pense que c'est... Ouais, c'est quand même, ça se voit, ça pourrait même se quantifier probablement. Eh bien, ça correspond à une accumulation de mon morphogène. Et l'explication de ces chercheurs, c'est que j'ai plus de récepteurs. Hein, vous voyez, le gant de baseball. C'est-à-dire que, comme je ne fais pas d'endocytose, mon récepteur reste à la surface, et donc il va accumuler la protéine à la surface. Donc, oui. C'est une explication, hein. Elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Et là, vous avez de nouveau Donc là, c'est FIC-VEN qui est dans le wild type, c'est-à-dire que le récepteur. Et là, dans le Schibayer qui est thermosensible, normalement, je vais voir un petit peu plus de FIC-VEN sur le bord, c'est-à-dire... Ça, c'est FIC-VEN tout seul en B. Donc, il ne faut pas que je me plante là, parce que j'arrive plus à voir où sont mes clones de là où je suis. Mais vous voyez qu'à l'intérieur des clones, là, hein, j'ai l'impression que par rapport à ce qui est extérieur, hein, j'ai plus de fluorescence qu'autour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein, comme si j'avais plus de récepteurs exprimés à la surface. L'idée que j'ai plus de récepteurs qui vont accrocher mon morphogène. Donc, alors, le déplacement du morphogène n'est pas dépendant de l'endocytose, mais il est régulé alors, par les protéoglycanes. Alors là, c'est un autre concept sur lequel j'espère avoir le temps C'est un autre élément d'information sur lequel j'espère avoir le temps de discuter avec vous la semaine prochaine. C'est sur ces fameux protéoglycanes. Parce que il est probable, enfin moi je pense, mais je ne suis pas le seul, que les sucres complexes, qu'on appelle les glycosaminoglycanes, jouent un rôle extraordinairement important dans ce phénomène de transport des morphogènes. Donc ce que ce groupe a fait, ça a été de prendre un mutant sulfateless. Sulfateless, ça veut dire que je retire les sulfates de mes sucres complexes. Les sucres complexes, ce sont des molécules qui sont fixées sur des protéines, bien entendu, ils sont des longues chaînes sucrées, le dermatane sulfate, l'héparine, c'est un sucre complexe, l'anticoagulant, l'héparine sulfate, kératane sulfate, et qui sont très riches en informations sur le plan séquence, avec différents éléments, le nombre de sulfates, c'est-à-dire de groupement SO4-1, et l'épimérisation, c'est-à-dire la conformation du cycle. Et quand vous faites la combinatoire, vous avez dans un sucre complexe une richesse informative quasiment aussi importante que dans une, même probablement plus importante que ce que vous pouvez avoir dans une protéine, et évidemment beaucoup plus importante que ce que vous pouvez avoir dans un ADN, où il y a quatre bases. Quoi. Donc, ces sucres complexes sont pas des molécules qui sont simplement de la colle avec des charges négatives, c'est aussi des molécules qui sont capables de reconnaître des morphogènes de façon extraordinairement spécifique. Et ce qui est fait ici, c'est que si je retire les sulfates, bien entendu, je n'ai plus d'activité glucosaminoglycane. Et ce que vous pouvez voir à ce moment-là, c'est que vous n'avez plus de mouvement. C'est-à-dire que votre molécule arrive, hein, elle s'arrête sur le bord du clone qui est dépourvu de sulfate. C'est-à-dire où mes glucosaminoglycanes ont été inactivés. Et ça suggère, dans la tête des gens qui ont fait cet article, bien entendu, ça suggère que le sucre est très important pour le transport. Bien plus important que toute autre considération, ce qui est important, c'est le sucre qui est exprimé. Ils ont également pris un autre mutant, qui est le mutant DALI ou DALI-like, qui sont deux gènes qui encodent des protéoglycanes, c'est-à-dire les protéines sur lesquelles sont fixés ces sucres complexes. Et si vous les mutez sur des clones, hein, on ne peut pas faire ça sur toute l'allèle parce qu'on n'aurait plus d'aile. Si vous le mutez sur des clones, ce que vous pouvez voir, c'est que votre morphogène, hein, reste le bord de la frontière. Il arrive ici et hop, il reste coincé. Hein. Donc, et là, je pense qu'on voit bien que c'est presque pratiquement à un rang de cellules, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller plus loin que le premier rang de cellules. Et ça, c'est assez joli, c'est assez clean. Donc là, de nouveau, c'est un petit peu la même chose. Hein. Vous voyez que vous allez avoir... Il faut que je retrouve ce que c'est, celui-là, parce que j'en ai tellement qu'à la fin, je finis par fatiguer. Hein. Ce qui montre que le GFP extracellulaire, oui, c'est l'extracellulaire, ne peut pas dépasser le clone. Vous voyez ici, le bleu, sur le bord du clone, vous voyez que votre bleu est beaucoup plus intense. Et d'où le modèle... on a un mini-clone qui est ici, hein, par exemple, là. Donc, en fait, je ne peux pas traverser, hein, comparé ici où je n'ai pas de mini-clones, et là, j'ai deux mini-clones de chaque côté. Vous voyez que mon arc de diffusion, ici, est beaucoup plus grand que dans cet arc de diffusion où j'ai perdu mes sucres. Alors, ça amène à un modèle qui est celui-là. C'est toujours un modèle, hein, bien entendu. Donc, j'ai une cellule qui produit mon morphogène, en l'occurrence DPP, et le morphogène va à la surface, mais il ne diffuse pas. Hein. Il va à la surface et il est bloqué par les sucres. C'est-à-dire, dès qu'il sort, il est attrapé par ça colle. C'est pas n'importe quoi, c'est spécifique, mais ça colle et ça accroche. Et il faut que ça passe à la cellule d'à côté. Alors, comment est-ce que ça passe à la cellule d'à côté? On n'en sait trop rien. On peut imaginer qu'il y a des sulfatases, par exemple, qui vont hydrolyser les sulfates, ou ça existe, hein, des sulfatases, des enzymes extracellulaires qui vont les décrocher. Mais ça va passer la cellule d'à côté, et c'est le complexe qui est formé du récepteur, si c'est DPP, disons, FixVines, et le glucosaminoglycane, parce que la plupart de ces morphogènes sont présentés à leur récepteur par des sucres complexes, eh bien, c'est ce complexe qui va être internalisé, et qui va être important pour faire de la signalisation. Donc, si je bloque la dynamine, je vais garder ça à la surface, mais je ne vais pas être internalisé du tout. Donc, je n'aurai pas de signalisation, et c'est pour ça que j'ai un noyau gris. Hein. Et là, je vais avoir une cellule qui va recevoir, et qui va de nouveau. Ça ne va pas l'empêcher de voyager, et donc il va aller signaliser de l'autre côté. Donc, en fait, je vais avoir un clone au centre qui ne répond pas, mais je vais pouvoir aller répondre de l'autre côté. Et pour eux, ça n'implique pas, évidemment, un phénomène d'endocytose. L'autre solution ici, c'est que j'ai... ce n'est pas la même solution, c'est la fin du modèle. Ma molécule est synthétisée, elle passe dans cette cellule d'à côté, c'est la même chose qu'ici, elle va aller signaliser, ensuite elle passe ici, elle entre, mais si je n'ai pas de sucre à la surface... Elle va signaliser dans la première rang de cellules, ce que vous avez vu tout à l'heure, dans le premier rang de cellules. Je vais avoir une réponse, hein, mais je ne vais pas aller plus loin que mon premier rang de cellules, parce que comme je n'ai pas de sucre ici, je ne peux pas passer le relais aux cellules suivantes. Donc ça, c'est un modèle que moi j'aime bien, parce que bon, j'aime bien les sucres, mais bon, ça reste malgré tout, comme toujours, un modèle. Donc là, je vous renvoie à ce papier sur... je vais revenir maintenant doucement à ces questions d'endocytose et de transport, parce que ça reste quand même un... Je ne sais pas qui a raison, peut-être que tout le monde a raison, que tout le monde a tort, dans des proportions variées. Mais ça vous met un petit peu en tête quelles sont les questions qu'on se pose quand on travaille sur ce genre de problème. Donc là, c'est, j'ai déjà montré cette diapositive en un des cours, je ne sais plus lequel, où vous avez ce transport, hein, et puis là, vous avez votre gradient. Toujours là, on a le drapeau français avec des seuils hein, qui vont donner des réponses différentes de mes cellules. Ça va être bleu, rose, blanc, et pas bleu, blanc, rouge, mais c'est la même chose, à partir de la source et de vos cellules cibles, en fonction de la diffusion. Et donc, soit une diffusion extracellulaire, avec tout ce que ça comporte de complications, est-ce que c'est un transport actif, est-ce que ça diffuse, quel est le rôle des sucres, quel est le rôle du récepteur, etc. Vous allez avoir ici la transcytose planaire, c'est-à-dire que je rentre dans une cellule, je sors, je rentre dans la suivante, je sors, je rentre dans la suivante, je sors, et puis les différents éléments de régulation, soit par dégradation, soit par des récepteurs qui vont aller bloquer mon truc à la surface pour l'empêcher d'aller se promener. Donc simplement pour vous remettre en tête ce qu'on vient de dire, Les bases, si vous voulez, sur le plan des principes de la chose. Donc, ça amène à une autre partie du cours, là, qui est, au fond, sur comment, si je m'intéresse à la transcytose, parce que je n'élimine pas le fait que ça puisse passer par l'intérieur d'une cellule, bien entendu, je n'ai pas de parti pris dans cette affaire. Donc, comment est-ce qu'on a mis en évidence l'existence de vésicules qui pouvait passer d'une cellule à l'autre. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est Hedgehog. Hein. Hedgehog, c'est un morphogène dont je vous ai déjà parlé, d'ailleurs, et sur lequel je vais revenir dans les étapes aujourd'hui, probablement, ou si je n'ai pas le temps aujourd'hui, la semaine prochaine. Et vous voyez que Hedgehog est ancré à la membrane par deux modifications. Un cholestérol, c'est-à-dire qu'il y a une fixation du cholestérol sur la partie C-terminale de Hedgehog maturé, j'y reviendrai, donc vous avez... du cholestérol. C'est la seule molécule qu'on connaisse qui soit liée de façon covalente à du cholestérol. C'est un cas unique. Et puis, il y a un palmitoate qui est dans le premier acide aminé, en côté N-terre. Donc, c'est une molécule qui a deux bouts de gras très forts. Hein, et de ce fait, cette molécule est fortement attachée à la membrane, puisque la membrane est elle-même hydrophobe et que ces deux signaux gras permettent l'insertion dans la membrane. Donc vous avez une partie hydrophile qui est en fait le morphogène, et puis vous avez ces deux queues lipidiques, hein, en quelque sorte, qui permettent l'ancrage de la membrane. Donc pour être décroché, il faut une molécule qui s'appelle dispatch, qui est une molécule qui permet le décrochage du morphogène. Tout ça, c'est autant d'éléments, évidemment, de régulation de la promenade des morphogènes. Eh bien, quand vous avez ici donc, on ne sait pas très bien en fait comment ça se passe. Donc, ce qu'ils ont fait dans cette manip-là, c'est qu'ils ont transformé Hedgehog ils ont retiré le cholestérol qui est là et ils lui ont mis un GPI, c'est-à-dire une molécule permet l'ancrage dans la membrane. Ou bien ils ont fait encore pire, c'est-à-dire qu'ils ont mis un domaine transmembranaire. C'est-à-dire que maintenant, mon hedgehog, il est ancré à la membrane de façon terrible parce qu'en fait, il a une queue cytoplasmique, comme s'il était un vulgaire récepteur d'une certaine façon. Et malgré ça, on le voit dans la cellule d'à côté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cellule d'à côté était capable de manger un morceau de membrane. C'est-à-dire que ce qui est passé dans la cellule d'à côté, ce n'est pas uniquement mon morphogène, c'est mon morphogène et le morceau de membrane auquel le morphogène a été accroché. Alors, c'est un modèle dans ce genre-là. Et ici, ils ont fait un truc pour voir si c'était vraiment tout. Ce qui a été fait, c'était de mettre un truc idiot, c'est de la GFP. Enfin, la GFP est une protéine fluorescente. Donc, vous connaissez la GFP, on en parle depuis maintenant 5 heures. Et ils ont accroché la GFP avec GPI, c'est-à-dire un glycosphosphatidylinositol, qui est un lipide qui s'encroche dans la membrane. Et de l'autre côté, ils ont pris une autre molécule, qui est CFP, qui est fluorescente, qu'ils ont liée à une molécule qui est ancrée dans la membrane par un géranyl-géranyl, c'est-à-dire qu'il y a aussi une queue lipidique. Et ce qui est Rho, qui est aussi modifié, qui est lui aussi ancré dans la membrane. Donc vous avez une membrane qui est marquée à l'intérieur et qui est marquée à l'extérieur. Et ce qu'on remarque, c'est que ce morceau de membrane est endocytosé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de l'endocytose, il y a de la dynamine, donc il y a de l'endocytose. Et vous avez après la fusion avec des endosomes. C'est-à-dire qu'en fait, ça va faire ce qu'on appelle des corps multivésiculés. Et quand ces corps multivésiculés reviennent fusionner avec la membrane, ils sont libérés entre les deux cellules, et c'est ce morceau de membrane, de vésicule interne, qui est capturé par la cellule et qui vient maintenant aller se promener, et c'est ce qu'on appelle un exosome. Hein. Donc il vient maintenant se promener ici. L'autre solution pour faire ça, c'est carrément de faire un budding à la surface, comme ça, hein, et d'être capturé directement, c'est-à-dire que, en fait, j'ai là-dedans des vésicules qui ont deux membranes cytoplasmiques. Donc, il semblerait que tout ça existe. Hein. En fait, les exosomes sont des choses qui sont très anciennes. Les exosomes ont été découverts par les immunologistes. Hein. Ça, c'est un papier que j'ai pris chez un type qui s'appelle Danzer et collaborateur en l'an 2000. C'est un commentaire de GCell Science. Et ce sont des cellules immunitaires, de type macrophage, hein, des cellules dendritiques en l'occurrence. Et ce que vous voyez ici, c'est que vous avez vos complexes MHC1 ou MHC2. Vous avez une endocytose de vos peptides, hein, avec qui sont fixés. Ici, vous allez fusionner avec les corps multivésiculaires, qui eux-mêmes sont porteurs des complexes MHC1 et MHC2. Et donc, au moment de la fusion, vous allez avoir la présentation du peptide sur vos complexes. Et c'est ça qui va les fusionner. Et alors, vous avez des petites membranes comme ça. C'est comme des mini-cellules sans noyau qui sont relarguées dans l'espace et qui vont permettre d'aller atteindre assez loin, par exemple, à des cellules présentatrices, à des cellules du type lymphocyte B ou de lymphocyte T. C'est-à-dire que mon macrophage va avoir une puissance de tir nettement supérieure à ce qu'elle serait s'il fallait qu'il soit directement au contact de mon lymphocyte. Si mon macrophage est capable d'envoyer ces exocètes chargés de MHC2 peptides à distance, c'est ce qui se passe avec les cellules dendritiques, eh bien, vous allez pouvoir activer vos lymphocytes T et B à une certaine distance. Et d'ailleurs, c'est des stratégies qui sont utilisées aujourd'hui, les exosomes chargés, dans des stratégies de lutte contre le cancer pour aller activer les défenses immunitaires contre des épitopes de cellules tumorales. Donc, c'est tout un domaine qui s'est développé essentiellement dans le domaine de l'immunologie. Et en fait, si vous voulez regarder, vous pouvez regarder le papier de l'équipe de Sébastien Migorena à l'Institut Curie. L'autre façon de faire, comme je vous l'ai dit, c'est carrément d'envoyer. Alors ça, c'est la technique exosome, hein, celle que je viens de vous décrire pour les cellules présentatrices antigènes. Ça consiste à envoyer directement sa membrane dans la cellule d'à côté. Et ça aussi, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qu'on connaît depuis longtemps dans les stratégies d'infection bactérienne. Là, c'est une listeria monocytogène dans laquelle, vous voyez, la bactérie est dans la cellule. Et alors, elle polymérise de l'actine et elle se promène dans la cellule à toute vitesse. Hein, et puis, quand elle rencontre la membrane, boum, ça déforme la membrane. Vous voyez, ça fait des. Voilà, là, ici, par exemple, vous avez des petites déformations de membrane qui sont liées à ma bactérie qui se promène comme une espèce de, avec une hélice derrière qui la propelle et à travers la cellule. Donc ça, et là, vous avez une cellule comme ça, d'accord ? Et là, vous avez une deuxième cellule qui n'est pas fluorescente parce qu'elle n'a pas été transformée par la GFP. Donc, mais ce que vous voyez, c'est que vous avez des bouts, hein, ici, qui émanent de cette cellule pour aller dans la cellule d'à côté. Et ça, c'est classique. Hein, voilà, ici. Ça, c'est une bactérie, hein, qui a budé dans la cellule d'à côté. Et hop, ça s'est refermé. Donc maintenant, vous avez un morceau de membrane avec la bactérie à l'intérieur. Et quand cette membrane va se liser, la bactérie aura envahi la cellule qui était saine. Et c'est comme ça que la bactérie peut passer de cellule à cellule pour aller propager une infection grâce à son petit moteur moléculaire qui est une sorte de flagelle riche en actine. Voilà comment ça se passe. Donc vous avez la première cellule, vous avez votre bactérie qui arrive ici, qui fonce à toute vitesse, qui déforme la membrane. Hein. Donc la voilà ici, ça se rompt à ce niveau-là. Donc maintenant, vous avez un petit bout de membrane de cette cellule donneuse avec la bactérie à l'intérieur. Ça se endocytose, donc vous avez maintenant effectivement une double paroi membranaire. Hein, et puis, il y a une lyse et la bactérie se retrouve libre à l'intérieur du cytoplasme, capable de faire le cycle suivant et d'aller enquiquiner les cellules d'après. Ce qui se passe ici, c'est que ça se produit aussi dans des cellules qui ne sont pas infectées, c'est-à-dire que ce phénomène de signalisation par capture de membrane est quelque chose qui ne nécessite pas forcément une bactérie qui vient amplifier le phénomène, mais que la bactérie a utilisé un mode de signalisation qui est déjà existant dans les cellules habituelles. En général, les parasites ou les agents infectieux, ils utilisent ce que les cellules savent faire.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.